Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Nous abordons une nouvelle série sur les maladies vasculaires du foie et aujourd'hui nous nous intéressons particulièrement au syndrome de Budd-Chiari. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Aurélie Plessier et le professeur Jean-Jacques Kiladjian. Docteur Plessier, professeur Kiladjian, bonjour.
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 Docteur Plessier, vous êtes hépato-gastro-entérologue, praticien hospitalier à l'hôpital Beaujon à Paris. Vous êtes responsable du centre de référence des maladies vasculaires du foie de l'hôpital Beaujon, ainsi que du réseau français des maladies des vaisseaux du foie qui participe également à l'ERN, le réseau européen des maladies rares du foie. Professeur Kiladjian, vous êtes hématologue, professeur des universités à l'Université de Paris et praticien hospitalier au sein du centre d'investigation clinique à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous êtes également responsable du centre de compétences des maladies vasculaires du foie de l'hôpital Saint-Louis. Alors, docteur Plessier, professeur Kiladjian, on parle aujourd'hui du syndrome de Budd-Chiari et ma première question est très simple et très directe. Qu'est-ce que le syndrome de Budd-Chiari?
Alors, le syndrome de Budd-Chiari, en fait, c'est un nom un peu compliqué pour dire uniquement que c'est la conséquence d'une obstruction des voies de drainage du réseau veineux du foie vers le cœur. Cette obstruction est le plus souvent due à une thrombose ou caillot sanguin qui peuvent atteindre 1, 2, 3, 4 veines hépatiques et qui vont obstruer la lumière donc, de ces vaisseaux, de ce réseau veineux. Cette obstruction peut être simultanée ou successive et du coup, la symptomatologie va être assez variable selon le type d'obstruction. Mais en tout cas, le risque, c'est d'entraîner à la fois une souffrance des cellules hépatiques et donc un mauvais fonctionnement du foie, donc une insuffisance hépatique, associée à une congestion au sein de ce réseau vasculaire et du coup à une augmentation des pressions dans tout le système d'aval et donc une hypertension portale, comme dans une cirrhose. Donc, c'est une situation très exceptionnelle où on va avoir l'association de la souffrance hépatique et de l'hypertension portale. C'est une maladie rare, hein, le syndrome de Budd-Chiari, puisque sur des études à la fois françaises, italiennes et asiatiques, l'incidence varie autour de 0,7 à 2 par million d'habitants par an.
Alors, quand on regarde les causes, le syndrome de Budd-Chiari est expliqué par la présence d'anomalies qui favorisent la survenue de caillots qu'on appelle des états prothrombotiques. Il y en a plusieurs qui peuvent être d'ailleurs présents uniquement ou associés plusieurs d'entre eux. Parmi ces prédispositions aux caillots, aux thromboses, donc la cause la plus fréquente en fait est une maladie du sang qu'on appelle un syndrome myéloprolifératif, qui a une présentation un peu particulière dans le contexte du Budd-Chiari, dont on parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Mais il y a plein d'autres causes qui doivent être aussi recherchées. Parmi les autres causes, si vous écoutez le podcast sur la thrombose de la veine porte, ces autres causes sont détaillées par les docteurs de Recours et Elkrieff, car beaucoup sont communes, en fait, entre le syndrome de Budd-Chiari et ces autres thromboses, avec des fréquences un peu différentes. Dans le syndrome de Budd-Chiari, parmi les autres causes rares mais étonnamment fréquentes, on retrouve la maladie de B7, mais aussi une autre maladie du sang, rare également, qui s'appelle l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Dans tous les cas, la prise en charge de ces causes est assez complexe et va nécessiter que les patients soient dirigés vers des centres experts de ces pathologies.
De fait, malheureusement, l'errance diagnostique est importante, alors que le diagnostic pourrait être beaucoup plus rapide si on y pensait plus tôt et qu'on faisait appel à un radiologue avisé. Et effectivement, plusieurs enquêtes ont montré que les patients avaient du mal à avoir un diagnostic rapide et dans à peu près la moitié des cas, le diagnostic est au moins supérieur à un mois et puis dans 20 à 30% des cas, il peut être supérieur à 6 mois. Et compte tenu de la nécessité d'un traitement urgent, évidemment, c'est un énorme souci. Ce diagnostic est souvent évoqué plutôt à l'hôpital et c'est pour ça que ce podcast est extrêmement important pour qu'on arrive à y penser beaucoup plus tôt dans la prise en charge de ces pathologies.
Et pour les cliniciens, quels sont les principaux symptômes d'alerte qui devraient faire évoquer un syndrome de Budd-Chiari?
Donc, les principaux symptômes d'alerte sont un peu le fait d'avoir en même temps une hypertension portale et des tests hépatiques très altérés. les signes d'hypertension portale, c'est l'ascite, le fait ensuite également d'avoir une splénomégalie ou des varices œsophagiennes. Et puis, ceci est associé étonnamment, et ça n'arrive normalement jamais en hépatologie, à un gros foie, une hépatomégalie qui est douloureuse, avec des tests hépatiques qui peuvent être franchement altérés, des transaminases qui peuvent atteindre 1000, 2000, et un TP qui peut s'abaisser très rapidement. On doit particulièrement suspecter un syndrome de Budd-Chiari lorsque le terrain est propice à cette maladie, malheureusement, et en tenant compte aussi de l'âge. L'âge médian, c'est quand même un âge jeune, autour de 38 ans, ce qui est aussi assez rare dans les maladies du foie, avec une extension du jeune adolescent aux patients octogénaires. Il s'agit d'une maladie hépatique qui peut atteindre des patients qui ont déjà une maladie prothrombotique connue. Et ça, c'est important d'y penser. Ou juste après une grossesse, ou favorisée par une contraception orale. Donc, toutes ces situations doivent faire penser au syndrome de Budd-Chiari. On doit suspecter un syndrome de Budd-Chiari chez quelqu'un qui a une insuffisance hépatique aiguë et une hépatomégalie, ou une insuffisance hépatique aiguë avec de l'ascite, ou au contraire une ascite réfractaire et puis une fonction du foie. Donc ça, c'est quand on est dans une maladie de Budd-Chiari chronique qui reste très conservée. Donc quelqu'un qui est jeune, qui a une ascite réfractaire et qui au contraire a une fonction hépatique qui marche très bien. Et donc, autrement, comme je l'ai dit, quelqu'un qui a une maladie prothrombotique qui favorise les thromboses et une maladie hépatique. Et enfin, de toute façon, il faut y penser devant toute maladie hépatique. Il faut l'avoir en arrière-pensée parce que même si c'est une maladie rare, un traitement mis en place rapidement va être très, très rapidement efficace et éviter des situations catastrophiques.
Alors, du point de vue de l'hématologue, on va être confronté au syndrome de Budd-Chiari dans deux grandes situations. La première, quand on suit, comme le disait Aurélie, un ou une patiente porteur d'un syndrome myéloprolifératif déjà connu, et ces syndromes myéloprolifératifs sont des états qui favorisent les caillots. Donc, la survenue d'un syndrome de Budd-Chiari doit faire partie des choses qu'on doit suspecter lorsqu'il survient. Un des signes d'alerte qu'Aurélie Plessier vient de nous présenter chez un patient connu déjà pour avoir cette maladie du sang. Et la deuxième grande situation dont nous parlerons juste après, c'est lorsque survient d'abord un syndrome de Budd-Chiari chez un patient qui n'avait pas de maladie du sang connue et que l'on découvre à cette occasion, à l'occasion du bilan étiologique de ce syndrome de Budd-Chiari, un syndrome myéloprolifératif. Donc deux situations différentes, mais pour un patient connu déjà, lorsqu'il y a des anomalies digestives, abdominales, des douleurs hépatiques anormales qui durent, une altération inexpliquée du bilan hépatique, c'est quelque chose auquel il faut penser.
Et face à des symptômes qui pourraient faire penser à un syndrome de Budd-Chiari, quels sont les principaux diagnostics différentiels à écarter ?
Alors, les diagnostics différentiels sont finalement assez rares. À partir du moment où on a bien analysé l'imagerie avec le radiologue. Donc, il faut absolument analyser en réunion multidisciplinaire les imageries qui peuvent faire penser à ce diagnostic pour éliminer, du coup, les diagnostics différentiels. Les diagnostics différentiels, ça va être d'avoir une obstruction de ces veines hépatiques secondaires à d'autres maladies, comme des tumeurs bénignes ou des tumeurs malignes, ou des parasites qui peuvent aussi infiltrer les vaisseaux. Ou alors, quand il y a une atteinte d'autres vaisseaux du foie, comme les sinusoïdes, et ça, c'est de toute façon dans des situations très particulières, après des chimiothérapies, on est alerté par ça. Enfin, quelquefois, des atteintes cardiaques un peu complexes, comme des péricardites, et les péricardites constrictives peuvent mimer un syndrome de Budd-Chiari. Donc, de toute façon, ces diagnostics différentiels sont de diagnostics, eux aussi, un peu compliqués sur le plan radiologique. Et donc, de toute façon, il faut une analyse un peu fine par un radiologue très compétent.
Et donc, justement, en cas de suspicion de syndrome de Budd-Chiari, comment affirmer le diagnostic ?
Donc, en fait, le diagnostic, il est vraiment radiologique. on regarde si les veines hépatiques ou la veine cave sont bouchées avec le radiologue. Et le radiologue va être d'autant plus, ça va être d'autant plus facile qu'il est orienté au moment où on va effectuer la demande d'échographie. Et ça, c'est très important. On a bien vu dans notre service. J'ai un exemple fameux d'un interne qui avait commencé, qui était là depuis 2-3 mois. Et le radiologue, pour un patient, n'avait pas été informé au départ de la question posée, donc n'avait pas posé de diagnostic. Et l'interne lui a renvoyé une demande en disant « je cherche ça ». Et le radiologue a tout de suite dit « mais oui, bien sûr, il s'agit d'un syndrome de Bœdecchiari ». Donc, il faut absolument y penser soi-même en tant qu'hépatologue pour dire au radiologue « moi, je pense vraiment que ça peut être ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Donc déjà, c'est très important dans la démarche. Et donc, le meilleur examen, c'est l'échographie Doppler hépatique qui va regarder les veines et regarder le flux dans ces veines hépatiques pour voir s'il y a une veine hépatique qui est large de sans flux ou s'il y a des collatérales entre les veines hépatiques qui sont bouchées et celles qui circulent ou si, enfin, il y a une vieille, ce qu'on appelle un cordon fibreux parce que la veine est bouchée depuis longtemps et est devenue complètement rigide et hyper échogène. On peut rechercher d'autres signes qui sont associés, bien sûr, dont on a déjà parlé, l'ascite, la dysmorphie hépatique, et un signe caractéristique, c'est le gros segment 1. On regardera la taille de la rate, on recherchera aussi les thromboses ailleurs. Mais c'est vraiment l'échodoppler hépatique qui donc demande une dextérité particulière du radiologue. Et enfin, ce qu'on fait, c'est une imagerie injectée. On va injecter les vaisseaux du foie et on demande une phase veineuse, bien entendu. On regarde à la phase où on opacifie les veines. Et là, pareil, avec le scanner abdominal ou l'IRM, on peut revoir, du coup, ces clichés avec un radiologue expert et lui demander s'il pense que ces vaisseaux sont obstrués ou non. Donc, c'est extrêmement important d'avoir une analyse fine pour le diagnostic, mais c'est aussi important quand on recherche la cause, parce que les causes se présentent aussi de façon un peu particulière, et là, on a vraiment besoin de faire appel au professeur Kiladjian pour avoir son expertise sur la cause, qui est un peu inhabituelle.
Oui, absolument. Il y a de multiples causes possibles, mais la plus fréquente reste une maladie du sang qui s'appelle un syndrome myéloprolifératif. Et c'est une famille de maladies, en fait, qui se caractérise habituellement par trop de cellules sanguines, trop de globules rouges, trop de plaquettes, trop de globules blancs. Or, chez les patients qui ont fait un syndrome de Bœdecchiari, du fait de l'hypertension qu'il y a dans le système porte et d'une grosse rate, ces chiffres-là sont complètement masqués et les numérations sanguines des patients ont l'air normales, ce qui n'est pas normal quand on a un syndrome de Bœdecchiari sans maladie du sang. Donc, c'est effectivement une circonstance de diagnostic un peu particulière et il faut systématiquement y penser. Le diagnostic des causes sous-jacentes de ces états thrombotiques, dont les syndromes myéloprolifératifs, se fait dans un premier temps sur une simple prise de sang dans laquelle on va chercher un certain nombre de mutations, notamment, qui sont caractéristiques de ces maladies, la plus célèbre et la plus fréquente étant la mutation d'un gène qui s'appelle JAK2, par exemple.
Et pour conclure, Dr Plessier, professeur Kiladjian, puisqu'on arrive à la fin de notre entretien, quelle est la prise en charge et le suivi des patients atteints d'un syndrome de Bœdecchiari?
Alors, quand on a un syndrome de Bœdecchiari, nous, notre rôle, c'est effectivement d'essayer d'aider les professionnels de santé dans le diagnostic et l'explication de la prise en charge lorsque c'est nécessaire. Et ensuite, que les patients puissent être vraiment pris en charge à proximité de leur domicile parce qu'il faut continuer à vivre de façon normale avec ces pathologies-là et à intégrer au mieux tous les traitements, les consultations multiples, etc., qu'on va devoir mettre en route. Et donc, il est extrêmement important dans la prise en charge de cette maladie d'adresser à des centres experts, que ce soit les centres de compétences, les centres constitutifs ou les centres de référence, pour qu'on mette en place un espèce de protocole de prise en charge et qu'on soit tous d'accord parce qu'il va y avoir une prise en charge multidisciplinaire. Il faut que cette prise en charge multidisciplinaire soit parfaitement coordonnée et qu'on fasse tous bien et au mieux pour le patient. Notre rôle, c'est ça, c'est d'accompagner l'annonce du diagnostic, d'accompagner la certitude et l'expertise sur le diagnostic, puis cette prise en charge, mais tout en favorisant une prise en charge locale. Ce qui est aussi très important, il me semble, puisque nous avons eu une étude récente qui a montré que alors que ce sont justement des patients jeunes, en pleine activité professionnelle, en pleine vie active, c'est un vrai choc, cette maladie. Ça peut être un moment extrêmement difficile à supporter et la souffrance morale est très importante pour nos patients, quelquefois supérieure à des patients qui ont 4 autres pathologies. Et ça, on l'a bien montré dans une analyse de qualité de vie. Et de fait, il faut vraiment essayer de coordonner au mieux et de prendre en charge cette éventuelle souffrance pour l'éviter et faire en sorte que les patients puissent vivre tout à fait normalement et intègrent tous ces traitements. Il ne faut pas oublier dans la prise en charge d'arrêter les médicaments qui potentiellement peuvent être toxiques pour le foie ou entraîner des thromboses. Évidemment, là, par exemple, la contraception par œstroprogestatif. Il faut associer des soins de support, la diététicienne, la psychologue. Et puis, vraiment, essayer d'avoir un recours à l'association de patients, parce que ça, c'est une porte ouverte pour les patients sur une grande note d'espoir. Parce que quand on voit des patients de l'association qui sont en pleine activité professionnelle et qui en plus font le travail de l'association et qui vont très bien, qui arrivent à tout gérer et qui sont souriants, heureux. Je pense que c'est une vraie source de ressources pour les patients qui rentrent dans la maladie. Ensuite, enfin, il est extrêmement important que le suivi soit poursuivi à vie, mais c'est un suivi qui est de plus en plus espacé au fur et à mesure des années pour être alerté sur des complications éventuelles qui peuvent être plus tardives, comme le risque de carcinome hépatocellulaire, donc de cancer du foie ou de modification de la maladie du sang. Donc, concernant les traitements, le traitement majeur, c'est le traitement anticoagulant, qui est quelquefois un peu compliqué à mettre en route, mais grâce à des équipes comme la clinique des anticoagulants qui permettent de bien surveiller ce traitement, on s'en sort très bien. Les patients s'en sortent très bien et sont vraiment aidés pour ça. Et puis, il faut traiter cette hypertension portale dont on a parlé, donc traiter les varices qui peuvent se développer par des médicaments qui vont diminuer la pression, qui sont des bêta-bloquants, voilà. Et puis, l'acide, donc l'eau qui peut apparaître dans le ventre, par des diurétiques pour éliminer cette eau qui est dans le ventre. Lorsque ces médicaments ne sont pas suffisants, on effectue un geste de radiologie interventionnelle pour aller déboucher les vaisseaux qui se sont bouchés. C'est pas systématique, on ne le fait que quand c'est nécessaire. Et puis vraiment, quand on n'a pas d'autres solutions ou quand la situation n'est pas propice à tout ça, on peut proposer en dernier recours la greffe hépatique. Jean-Jacques, tu veux dire quelques mots peut-être sur ce point, le suivi hématologique?
Oui, absolument. Et comme tu le soulignais, la prise en charge psychologique est très importante parce que c'est une situation très complexe avec une maladie potentiellement grave du foie et une maladie du sang chronique qu'il faut gérer au fil du temps chez des gens le plus souvent jeunes sur qui ça tombe comme ça. Donc, il faut absolument prendre ça en charge. Sur le plan plus thérapeutique, je dirais, l'intérêt du suivi conjoint qui est indispensable entre une équipe d'hépatologie qui va s'occuper de tout ce qui est la revascularisation, l'anticoagulation, etc., de manière experte, et une équipe d'hématologie habituée à suivre ses patients pour décider si, en plus des manœuvres proposées par l'équipe d'hépatologie, il faut de notre côté traiter par des médicaments le syndrome myéloprolifératif sous-jacent. Ce n'est pas toujours indispensable, mais en tout cas, il faut régulièrement réévaluer cette situation et ce suivi conjoint a permis, au cours des dernières décennies, je pense, d'améliorer significativement le pronostic de ces maladies et la qualité de vie de nos patients.
Eh bien, merci mille fois, docteur Plessier et professeur Kiladjian, de nous avoir éclairé sur le syndrome de Budd-Chiari. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur les maladies vasculaires du foie. À très vite.